Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Jalani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
S'il est possible d'informer les couples qui se séparent dès le début, cette possibilité de faire intervenir à la caisse d'allocation familiale, ça m'aurait plus qu'aidé.
30 à 40% des pensions alimentaires non payées ou payées en retard, mais ça c'est du passé. Maintenant la CAF peut jouer les intermédiaires, toutes les explications dans un instant. Tir groupé contre la stratégie vaccinale du gouvernement, mais finalement, peut-on dire qui va piano va sano? Sommes-nous si lents que cela? Dossier dans ce journal. Boris Johnson reconfine l'Angleterre face à la flambée des contaminations, interdiction de sortir sauf motif impérieux, fermeture des écoles dès aujourd'hui. Les Anglais acceptent plutôt bien cette annonce. On ne peut pas en dire autant dans l'Est, à Sarreguemines, où il faut bien s'organiser avec un couvre-feu dès 18h.
On a l'impression qu'on ne pourra plus jamais avoir une vie normale. Tout le temps le masque, le confinement, le couvre-feu, puis franchement ça fatigue quoi.
Et puis vous les avez souhaités comment vos vœux? Carte postale? Non. Coup de fil? SMS? Non plus. Cette année, c'est l'explosion des WhatsApp, vocaux ou vidéo.
Juste après ce journal, l'automobile qui ne se vend plus, à moins qu'elle soit électrifiée. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, les JO de Tokyo toujours plus menacés. On va en parler dans l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est souvent un épineux problème dans les familles monoparentales, le paiement des pensions alimentaires. Emmanuel Macron sera justement cet après-midi à la caisse d'allocation familiale de Tours pour promouvoir le nouveau dispositif qui concerne maintenant tous les parents séparés.
Un service public de versement des pensions alimentaires qui va leur faciliter la vie. Olivier Samin, comment est-ce qu'il va fonctionner ?
Eh bien désormais, si votre ex-conjoint vous doit une pension alimentaire, il n'est plus nécessaire, chaque fois qu'un impayé survient, d'engager des démarches pour en obtenir le paiement. C'est la caisse d'allocation familiale qui, à votre demande, et une bonne fois pour toutes, va se substituer à vous. Elle prélèvera directement le montant de la pension sur le compte de votre ex-conjoint et vous le reversera aussitôt. La seule démarche que vous avez à faire, c'est de fournir à la caisse d'allocation familiale le titre exécutoire qui fixe le montant de la pension. Ce service public du versement des pensions alimentaires est accessible aux parents qui viennent de se séparer, mais aussi à tous ceux dont la séparation remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il n'est pas nécessaire pour l'actionner d'avoir été confronté à un impayé. Le but, c'est de faire en sorte que désormais, le paiement de la pension alimentaire ne soit plus source d'inquiétude et encore moins source de conflit. On estime aujourd'hui que sur 1 million de familles monoparentales faisant l'objet d'une décision de versement d'une pension alimentaire, 300 000 ne la touchent pas ou la touchent de façon aléatoire.
Ouais, c'est considérable, hein, Olivier Samin. Ça veut dire en clair que 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées du tout ou alors en retard. Une situation très difficile à vivre, hein, pour les femmes seules puisqu'elles sont les premières concernées.
Et c'est le cas de Claire, séparée depuis 8 ans du père de ses deux enfants. Cette réforme qui permet à la CAF d'assurer le versement des pensions aurait tout changé pour elle.
Donc j'ai sollicité la caisse d'allocation familiale à un moment où je ne percevais plus du tout la pension alimentaire donc qui devait être versée tous les mois. Il fallait les réclamer ou en faire son deuil, hein, carrément. Donc effectivement, s'il est possible d'informer les couples qui se séparent dès le début qu'il y a cette possibilité de faire intervenir à la caisse d'allocation familiale, ça m'aurait plus qu'aidé parce que moi, il a fallu que j'attende plusieurs mois d'impayés pour faire la démarche. Ça aurait dénouer un certain nombre de tensions qui pouvaient durer à cause de ça avec le père de mes enfants. Cette espèce de chantage permanent autour de la pension alimentaire, des droits de visite, etc., qui parfois occulte le soin qu'on doit apporter aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a des tensions qui auraient pu ne pas exister si cette démarche avait été possible dès le début, en fait.
Un témoignage recueilli par Hélène Terzian. Le politologue Olivier Duhamel, accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner, un lourd secret qu'elle dévoile dans un livre qui sort jeudi, La Familia Grande. Elle raconte les agressions subies par son frère jumeau quand il avait 13 ans, agressions qui ont duré plusieurs années. Les faits sont désormais prescrits, mais elle explique qu'elle ne pouvait plus se taire.
Et Olivier Duhamel a démissionné de toutes ses fonctions. Il ne présentera donc plus l'émission Mediapolis sur Europe 1. 7h05, direction l'Angleterre à présent, où l'on retrouve un mot bien connu, lockdown, confinement.
Tonight at 10, England enters another period of national lockdown, enforced by law, with people ordered to stay at home.
The weeks ahead. Voilà, un nouveau confinement national. Tout le monde a l'ordre de rester à la maison. Journal de 22h hier soir sur la BBC. Boris Johnson vient d'annoncer sa décision de reconfiner le pays face à la propagation du nouveau variant du virus. Les hôpitaux sont submergés. Les écoles ferment dès ce matin. Les cours se feront à distance. Les commerces essentiels pourront rester ouverts. Une annonce plutôt bien reçue par les Anglais. Reportage à Londres d'Anaïs Cordoba.
Pour Dina, anesthésiste dans un hôpital londonien, cette annonce est un soulagement. Il était temps que ce confinement arrive, confie-t-elle dans un sourire fatigué.
C'est difficile, nous sommes débordés, nous avons atteint le même nombre de patients qu'en mars, en un temps beaucoup plus court. Et là, nous sommes encore dans une période de latence. Dans quelques temps, l'effet du relâchement à Noël va nous frapper fort.
Ce nouveau confinement est aussi strict que celui du printemps. La règle est de rester chez soi, les sorties ne sont autorisées qu'à certaines conditions. Tous les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les écoles. Mike, père de deux enfants de 3 et 6 ans, appréhende les jours à venir.
On ne sait pas encore comment on va faire avec ma compagne. On va se débrouiller, nos employeurs respectifs devront être compréhensifs. On ne va pas pouvoir travailler aussi efficacement, il va falloir s'adapter.
Il soutient malgré tout le confinement, comme son ami Ben, jeune londonien.
C'est un mal nécessaire, mais cette fois-ci c'est différent, car il y a une lumière au bout du tunnel. D'ici 2 ou 3 mois, on devrait pouvoir de nouveau vivre presque normalement.
Grâce à la vaccination, Boris Johnson a laissé entendre qu'une levée progressive des restrictions serait peut-être envisageable mi-février. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et selon Boris Johnson, à la mi-février, toutes les personnes de plus de 70 ans seront vaccinées dans le pays.
Ici en France, on souffre de la comparaison avec d'autres pays. L'Angleterre, on vient d'en parler, l'Allemagne ou Israël, qui détient le record du nombre de vaccinés par habitant.
Alors avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
On va essayer d'y voir plus clair ce matin. Alors d'abord, est-ce qu'on est si en retard que ça?
Alors par rapport à nos voisins, oui. Par rapport au plan de vaccination annoncé mi-décembre, non. Déjà à l'époque, le gouvernement parlait d'une campagne qui devait vraiment démarrer que mi-janvier. Et depuis le début, la France a fait le choix de rassurer dans un pays où la majorité de la population ne veut pas se faire vacciner. Ça veut dire d'abord une visite pré-vaccinale, ensuite le recueil du fameux consentement. On est les seuls au monde à faire ça, rendez-vous compte. Et puis l'obligation d'être vacciné en présence d'un médecin qui doit vous garder en observation pendant au moins un quart d'heure. On est loin de la vaccination Covid au volant de sa voiture, comme aux États-Unis notamment.
Est-ce qu'en choisissant de vacciner en priorité les personnes âgées, on a aussi ralenti la campagne de vaccination?
Alors oui, mais là encore, c'était une recommandation de la Haute Autorité de Santé et personne n'avait rien trouvé à redire. L'idée étant de protéger en priorité ceux qui meurent le plus du Covid. Je vous rappelle qu'un tiers des morts sont en EHPAD. Si on vaccine massivement et tout le monde dès le début, comme on n'a pas un stock de doses illimité, eh bien on ne cible pas les plus fragiles. Encore une fois, mi-décembre, tout ça faisait consensus. Mais c'était avant que nos voisins ne vaccinent à tour de bras et que ces chiffres ne soient massivement repris, accréditant l'idée que là encore, après les problèmes de masques et de tests, le gouvernement n'était pas à la hauteur.
Alors justement, Emmanuel Macron a réuni hier un comité de suivi à l'Élysée. Est-ce qu'on va passer à la vitesse supérieure?
Oui, ça s'accélère déjà. Le ministre de la Santé a parlé hier de milliers de vaccinations rien que ce lundi. Il faut dire que le gouvernement a avancé d'un mois la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner. Qu'une centaine de centres de vaccination va être ouvert d'ici demain dans les hôpitaux. Maintenant, on ne va pas rattraper notre retard entre guillemets en quelques jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra en février si la mortalité baisse effectivement dans les EHPAD et donc si la première phase de vaccination est un succès. Puis au printemps, cette fois, si la vaccination de masse a fonctionné. Et c'est vrai que pour cette phase-là, on n'est pas à quelques jours près.
Merci Mathieu Charrier, dossier Europe 1, dans le journal de 7h. Alors si en France, on ne parle pas de reconfinement pour l'instant, 15 départements appliquent un couvre-feu plus strict depuis samedi, 18h au lieu de 20h.
Oui, mais dans ces régions, souvent touchées de plein fouet par la première vague en mars dernier, la lassitude est de plus en plus souvent remplacée par l'exaspération. Arthur Elmbaché nous emmène à Sarreguemines en Moselle, où on apprend à se débrouiller avec les nouvelles règles.
Jenny, la boulangère, n'est pas en colère. Elle est dépitée, exaspérée par cette énième nouvelle règle, couvre-feu 18h.
Bien sûr que c'est énervant. Moi, je travaille toute la journée. Donc forcément, en rentrant, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses.
Vous allez faire quand vos courses?
Ce week-end, comme tout le monde. Il y a le risque de se retrouver avec énormément de personnes, du coup, et d'avoir beaucoup plus de contamination. Et du coup, il faut des attestations, il y a des contrôles. On a l'impression qu'on pourra plus jamais avoir une vie normale. Tout le temps, le masque, le confinement, le couvre-feu, puis... Franchement, ça fatigue, quoi. Il nous change énormément de versions et ça prend la tête, quoi.
Donc le message qu'on a envoyé en date du 2 janvier, bonjour, suite au couvre-feu, plusieurs créneaux vous sont proposés.
Sylvain Wagner est le directeur technique du club d'athlétisme de Sarreguemines.
C'est un casse-tête chinois, donc on attend les réponses, on essaie d'arranger tout le monde. Les horaires seront plus tendus, donc il faudra faire vraiment au plus vite pour démarrer rapidement les séances afin de terminer au plus tard à 17h30.
Tomber sur un Sarreguminois positif peut malgré tout vous arriver.
On n'a pas une vie, nous, où le soir entre 18h et 21h, c'est la nouba, on part, on a plein de choses, on a une vie où voilà, vers 18h, 7h, on est à la maison, donc, et puis ça sert à rien de s'énerver là. C'est la nouvelle année, il faut souhaiter des bonnes choses. Il faut voir la vie positivement, on va dire.
Sarreguemines, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Accusé d'être l'un des organisateurs de la rave party du Nouvel An en Bretagne, un jeune homme dort en prison cette
nuit.
Oui,
2400 personnes avaient été réunies au sud de Rennes. L'homme a été mis en examen hier pour mise en danger de la vie d'autrui et placé en détention provisoire. Lui dit avoir donné un coup de main ponctuellement.
Et cet après-midi, c'est un autre organisateur de soirées clandestines qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Bobigny.
Oui, un homme de 27 ans. Il avait rassemblé 600 personnes dans un tunnel désaffecté du 13e arrondissement de Paris en plein confinement fin novembre, pour une soirée intitulée « I want to break free », comprenez, je veux m'évader. Et en plus, il n'en était pas à son coup d'essai. Gladys Lafitte.
À la fin du mois de septembre, il avait déjà organisé une soirée dans un hangar à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, avec 1000 participants, alors qu'à l'époque, tout rassemblement de plus de 10 personnes était interdit. Mais aucun problème pour ce jeune graphiste de 27 ans. Il justifie son activité comme un acte de résistance. Il prône même la transgression des règles au nom de la bienveillance, dit-il. Une bienveillance plutôt lucrative, hein, puisque derrière lui se cache une association fantôme, organisatrice de 22 soirées clandestines en un an et demi, pour un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Les enquêteurs ont découvert un système bien rodé avec prévente de billets opérée par une autre société dont le dirigeant est aussi renvoyé devant le tribunal, un fournisseur de matériel de sonorisation, des personnes chargées d'aménager ces lieux insolites et évidemment des serveurs et des DJ, tous ces collaborateurs étant non déclarés. Une activité illicite dont le jeune homme ne semblait pas vraiment se cacher puisque les policiers ont retrouvé chez lui un article de presse qui lui était consacré et un accord de tournage pour une célèbre émission de télévision.
Alors la plupart des Français, faut le dire, étaient quand même très très éloignés, hein, de ces soirées clandestines, ce qui nous a peut-être donné du temps pour réfléchir à nos vœux. Alors j'ai le souvenir, moi, des cartes de vœux qu'on posait sur la cheminée, les cartes papier, tout ça c'est terminé. Il y a eu les coups de téléphone, les SMS et les records. Maintenant, Hélène, ce sont les réseaux sociaux.
Oui, et cette année, comme le réveillon était, vous le savez, en théorie limité à 6 personnes, il a fallu aussi s'adapter pour souhaiter la bonne année à ses amis, à sa famille. Alors Clément Le Saffre, vous avez les chiffres du Nouvel An, ils sont plutôt étonnants.
Eh bien, il s'agit d'un réveillon historique. Pour le Nouvel An, WhatsApp a enregistré 1,4 milliard d'appels vocaux ou vidéos dans le monde. C'est du jamais vu et c'est 50% de plus que l'an dernier. C'est d'ailleurs la solution pour laquelle ont opté Capucine et ses amis.
C'est vrai que c'est quand même frustrant parce qu'on aime se retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire des soirées ensemble et c'était l'occasion. Mais vraiment, là, c'était pas raisonnable. Du coup, on a choisi de vraiment marquer le coup par un premier vrai apéro en début de soirée. Et puis après, comme ça, on se rappelait de temps en temps et notamment, on s'est rappelé à minuit pour se souhaiter les vœux. Et c'est ça qui était chouette, c'est que on a pu se voir au moment des vœux, c'est le principal dans ces moments-là.
De fait, avec les contraintes sanitaires, les Français ont plus cherché à se voir en vidéo. Selon les chiffres d'Orange, le trafic internet mobile et fixe a augmenté de 30% le 31 décembre et le 1er janvier par rapport à la même période l'an dernier. L'effet conjugué des messages sur les réseaux sociaux et des appels vidéo. A l'inverse, les chiffres du réveillon actent un peu plus la ringardisation des SMS. Les clients d'Orange ont échangé 420 millions de textos pour le Nouvel An. C'est beaucoup, mais c'est tout de même 30% de moins que l'an dernier.
Merci Clément Le Saffre. On a donc appris grâce à vous qu'envoyer ses vœux par SMS, c'est ringard. Et se voir par WhatsApp, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. C'est ça le monde qui change aussi.
Et puis tiens Hélène, je voulais vous faire un petit cadeau pour terminer ce journal. C'est une nouveauté qu'on n'attendait pas en ce début d'année. Une surprise signé Aya Nakamura. Je sais qu'on va l'entendre en boucle chez les Elani. Ça s'appelle Ailleurs.
Comment vous savez ça?
Nouveau morceau issu d'une compilation publiée par son label, un label rap de Warner Music. Une compilation avec les rappeurs Nino, SCH ou Soprano. Et retenez bien, ça s'appelle Ailleurs. On va l'entendre beaucoup.
On sera toujours en bis, bis. Nous deux, c'est pour la vie. T'as toujours été ma cam.
7h14 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, en musique, évidemment.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien avec nous. À Tours, le président de la République va promouvoir aujourd'hui sa réforme de la pension alimentaire. On en parlait dans le journal. 300 000 pensions alimentaires impayées ou irrégulièrement. Désormais, la caisse d'allocation familiale pourra servir d'intermédiaire. À 7h40, je reçois la sociologue du CNRS, Sybille Golac, co-auteur du Genre du Capital aux éditions de La Découverte. Si le mariage protège les droits des femmes, la famille reproduit les inégalités hommes-femmes. Selon elle, elle les entretient. Pension alimentaire, famille monoparentale, précarisation de ces femmes. C'est le tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure. Mais tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.